Avant de commencer l'épisode, je dois vous parler d'un rendez-vous immanquable dans l'écosystème SaaS. Le 25 et le 26 septembre prochain, en plein cœur de Paris à Station F, c'est le retour de B2B Rocks, l'événement incontournable du SaaS B2B. Et je vais vous donner trois bonnes raisons de vous y rendre. La première, c'est que vous allez rencontrer une communauté mondiale qui regroupe plus de 3000 participants de l'écosystème SaaS, avec des fondateurs, des C-level, mais aussi des VC. La deuxième, c'est qu'ils ont réuni des speakers de classe mondiale venant des plus belles startups comme Asana, Notion, Figma, Aircall, Paddle ou encore YouSign pour parler d'intelligence artificielle, de marketing, de génération de revenus, mais aussi de bootstrapping. La troisième, c'est que vous allez pouvoir connecter avec vos pairs et créer des relations durables grâce à l'atmosphère unique de B2B Rocks. Mais j'ai surtout une bonne nouvelle pour vous, c'est que je vous ai négocié moins 50% sur le prix des billets. Alors pour en profiter, c'est très simple, rendez-vous sur le site de B2B Rocks, b2brocks.co et utilisez le code SASCLUB50, tout en majuscule et tout attaché, pour bénéficier de moins 50% sur l'achat de vos billets. Bref, c'est une super affaire pour un super événement. Et une dernière info avant de vous laisser avec l'épisode du jour, plus vous attendez, plus les prix des places augmentent, alors ne tardez pas, rendez-vous sur le site b2brocks.co pour bénéficier de moins 50% sur vos billets. Bon épisode.
Il y a un framework qui est assez sympa sur qui est partagé par YouTube, par Google, qui est le framework des 3 H pour Help, Hub et Hero, si je me trompe pas, qui va permettre de distinguer 3 types de contenus. Donc les contenus qui sont là pour éduquer les gens, les contenus qui sont là pour inspirer les gens et les contenus qui sont là pour divertir les gens. Et l'idée, donc, en fonction de ces 3 points que je t'ai dit, chacun a son importance en proportion dans le contenu que tu vas produire. Par ordre, comme je te l'ai dit, l'objectif, c'est de faire principalement du contenu qui est là pour éduquer, ensuite pour inspirer, ensuite pour divertir. Et nous, c'est ce qu'on a un peu essayé de faire. Mais l'idée, après, c'est vraiment de mettre en pratique assez rapidement ce que tu fais pour voir ce qui marche clairement pour les gens, mais plus ce qui toi te fait plaisir, ce que t'as envie de faire. L'idée, c'est de trouver ce que t'as envie de faire et ensuite voir comment c'est perçu. À mon sens, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et voilà, l'idée, c'est d'avancer petit à petit. Et au final, on pense que sur YouTube, voilà, il faut avoir des gros budgets, que comme tu disais que c'était pas forcément anodin, que c'était un gros effort. Je suis d'accord avec toi, mais au final, tu peux lancer, c'est Orelsan qui disait ça, si tu as envie de faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Et je pense que aujourd'hui, c'est un peu ça sur les réseaux. Il faut pas non plus trop complexifier la chose avant de se lancer.
Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SaaS français. Je m'appelle Eric Seclet et je suis copywriter freelance pour SaaS B2B. Le but de ce podcast est simple, vous apporter sur un plateau les meilleurs conseils et retours d'expérience d'entrepreneurs de l'écosystème SaaS. À chaque épisode, direction les coulisses pour parler validation de l'idée, conquête des premiers utilisateurs, acquisition, pivot, mais aussi réussite et apprentissage. On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti Léo. On fait un hors-série sur YouTube. Je reçois donc Léo qui est Brand Content Manager chez Crisp. Bienvenue Léo.
Merci Eric.
Alors Crisp est un habitué hein, du podcast, vous le savez, on avait reçu Baptiste dans les tout premiers épisodes et aussi Antoine à 2 reprises. Donc je suis super content de mettre en avant Crisp dans le podcast une nouvelle fois. Et comme je le disais en intro, on va parler de YouTube. T'as pas mal de boîtes aujourd'hui qui se posent la question de ce canal-là. Est-ce qu'il faut monter en puissance sur YouTube? Comment est-ce qu'on exploite la vidéo, etc. Donc, chez Crisp, vous avez pris l'initiative sur le sujet. Et l'idée, ça va être de voir un petit peu comment vous y êtes pris étape par étape et que tu puisses nous partager un petit peu tes conseils là-dessus. Donc, vraiment très content de t'avoir dans l'émission.
Bah écoute, merci beaucoup pour l'invitation et puis avec plus grand plaisir pour parler de tout ça.
Top. Peut-être pour recontextualiser, donc toi t'es arrivé quand chez Crisp et ouais, déjà, quand est-ce que t'es arrivé et puis ensuite j'enchaînerai les petites questions.
Ouais, bah écoute, j'ai rejoint Crisp du coup il y a 10 mois, un petit peu moins d'un an et donc voilà, l'idée c'était de lancer cette chaîne YouTube qui s'appelle Derrière la bulle et qui parle de tous les sujets que traite Crisp, donc les sujets de support client, d'expérience client, de care de manière plus générale, au travers d'une chaîne YouTube et de faire avancer un petit peu ce marché qui est un peu pas sous-estimé mais qui est parfois un peu négligé par certaines boîtes. Donc l'idée c'était d'apporter un petit peu notre vision par rapport à ça, de montrer que finalement le care ça peut être très utile sur plein d'aspects, notamment en marketing, contrairement à ce qu'on peut penser. Et voilà, l'idée c'était de créer du contenu. Donc pendant plusieurs mois durant l'été, on a plus réfléchi à comment on allait axer les choses. On a avancé un petit peu en sous-marin sur ce projet-là, et puis on a lancé la chaîne YouTube Derrière la bulle du coup en septembre dernier, donc il y a 6 mois.
Trop bien. Et est-ce que tu peux nous partager quelques métriques à date, même si c'est encore tout jeune? C'est quoi aujourd'hui un peu les stats de la chaîne?
Alors, on a un petit peu plus de 500 abonnés, du coup, à l'heure d'aujourd'hui. On a, à l'heure où je te parle, je suis en train de regarder en ce moment, on a 12 vidéos qui ont été publiées. On a également des shorts qui ont été publiés, donc là-dessus, on en a un peu plus que 12, on en a peut-être une vingtaine. Mm-hmm. Et puis après, sinon, au niveau des heures de visionnage, on doit être à pas loin de 2000 heures, si je me trompe pas.
Et donc, okay, c'est pas mal.
Au niveau des vues... Ouais, c'est pas mal. Et au niveau des vues, on a presque 30 000 vues.
Ok, bon, ouais. Super. En tout cas, pour un début et sur du B2B, je trouve que c'est plus qu'encourageant. Et pareil, sur un sujet comme le care qui est hyper niché, c'est pas forcément, tu vois, le sujet où tu te dis je vais faire un carton du jour au lendemain. Très très cool. Peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le rationnel derrière le lancement de cette chaîne YouTube? Ça s'inscrivait dans quel contexte? Pourquoi vous l'avez lancé?
Ouais, bien sûr. Alors, l'idée, comme je t'ai dit, c'était de parler de tous ces sujets qui sont le care, le service client et l'expérience client, de manière générale. Et de créer une chaîne YouTube qui centralise vraiment tous les sujets qui peuvent être englobés autour de ces thématiques-là. C'est quelque chose qui s'est pas fait, en tout cas en France, ou en tout cas qu'on n'a pas vu, nous, de notre côté. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'apporter notre pierre à l'édifice, à l'écosystème YouTube, à tout ce qui est création de contenu pour des boîtes, au travers de cette chaîne YouTube-là, de montrer un peu quelque chose de nouveau, et voilà, comme je t'ai dit, de faire avancer un petit peu ces thématiques et la création de contenu autour de ces thématiques. L'idée, c'était pas forcément de parler que de Crisp, c'était pas de faire un média, c'était pas de faire une chaîne YouTube Crisp, parce qu'il y en a déjà une, qui est vraiment axée sur le produit, mais plus de faire quelque chose de plus global. Donc on n'a pas de mal à parler, par exemple, de nos concurrents. C'est pas quelque chose auquel on est fermé. Au contraire, l'idée, c'est vraiment de faire avancer ces thématiques-là. Donc j'imagine, enfin moi, je pense que c'est une bonne chose de parler des concurrents et donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on voit les choses aujourd'hui. Donc comme tu l'as dit, c'est très récent. L'idée, c'est d'avancer au fur et à mesure encore pendant plusieurs mois et de voir qu'est-ce qui prend. Donc on a traité plusieurs sujets, que ce soit en faisant des résumés de livres ou des vidéos un petit peu plus sur l'aspect productif pour aider un petit peu les agents de support et les accompagner dans leur métier au quotidien. Donc ou des interviews aussi. Donc l'idée, c'est de tester encore plusieurs choses, voir ce qui prend et ensuite d'avancer dans cette démarche-là.
Et vous êtes malgré tout fixé un objectif au lancement de la chaîne, quel qu'il soit, hein, pas forcément au niveau des vanity metrics, mais est-ce que c'est avant tout un outil de notoriété, ou est-ce que vous le voyez comme un moyen aussi de générer du business? Enfin, c'est quoi un peu la place de la chaîne dans la stratégie?
Personnellement, je pense que les objectifs, ils sont multiples, en fait. Et que le vrai intérêt derrière cette chaîne YouTube, on le connaît pas encore, à mon avis. Je pense que il y a énormément de bienfaits entre guillemets à créer du contenu. Ça peut déboucher sur plein de choses, plein d'opportunités. Donc aujourd'hui, les intérêts sont multiples, comme je te le disais. Contrairement à ce qu'on peut penser, tu vois, je pense qu'il y a un gros effet de réseau parce qu'on fait des interviews aussi avec la chaîne YouTube, donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Et ça, au final, c'est génial, tu vois, parce que nous, ça nous apporte, enfin, ça nous fait grossir notre réseau, ça nous permet de travailler avec des gens avec qui on travaillait pas avant sur tout ce qui est prestations de services, etc. Mmh. Et ouais, non, c'est génial par rapport à ça. Ça nous permet également d'apprendre des choses sur le support client, des choses qu'on ignorait. Et on peut aussi le voir un petit peu comme un pôle de recherche et développement, tu vois, en interne. Sinon, au-delà de ça, bien sûr, l'idée, ça peut être également de faire du business et de générer des ventes sur certaines options. Je pense par exemple à une feature que Crisp a lancée il y a quelques mois qui s'appelle Magic Reply et qui permet qui est directement backé sur ChatGPT et qui permet aux agents de support client de générer une réponse automatiquement avec de l'intelligence artificielle pour les aider un petit peu dans leur rédaction de messages. L'idée, c'est pas de les remplacer, mais plus de les accompagner. Et on a fait une vidéo dédiée sur ce produit-là, qui a bien marché, et qui apporte également du business, comme je te le disais. Donc, vraiment, les intérêts sont multiples. Je pense que ça va aller, en s'accroissant avec le temps et avec plus de contenu. Mais aujourd'hui, on n'a pas vraiment de... L'idée, c'est de grossir et de voir ce que ça apporte, mais il n'y a pas vraiment un objectif derrière. J'imagine que la notoriété, ça l'est également.
Ouais,
mais...
ouais, comme tu l'as dit, c'est un peu le labo de recherche.
Ouais, mais pas que, parce qu'au final, tu vois, il y a aussi cet intérêt business, il y a plein d'opportunités, en fait. Il y a vraiment plein d'intérêts à faire ça. Et je pense qu'on saura vraiment quel est le principal intérêt avec le temps. Comme je te l'ai dit, on ne veut pas faire quelque chose qui fait que la promotion de Crisp. On parle aussi des concurrents, tu vois, que ce soit Intercom, Zendesk ou autre. Et c'est une bonne chose, je pense. Donc, ouais, l'idée, c'était à la base de faire un... Bon, c'est très ambitieux aujourd'hui de parler de médias, mais c'était un peu ça l'idée. C'était un peu de créer un média qui parle de care et de support client. Donc, à voir si on s'y tient toujours dans 6 mois. Ça se trouve, ça va partir sur autre chose. Mais voilà.
Ok, donc une démarche plutôt itérative, type labo de recherche, et puis on voit un peu ce qui sort en bout de chaîne pour orienter la suite.
C'est ça.
Peut-être juste avant de rentrer dans le vif du sujet et de l'épisode, est-ce qu'aujourd'hui tu peux nous dire combien de vidéos vous sortez par mois, c'est quoi un petit peu le budget que vous y consacrez, et toi, à titre perso, combien de temps ça te prend chaque semaine?
Ouais, bien sûr. Donc du coup, on est sur un rythme de publication de une vidéo toutes les 2 semaines, donc 2 vidéos par mois, qu'on tient depuis septembre. Bon, avec les vacances, des fois, il y a des petits écarts d'une semaine ou deux qui sont rajoutés par-ci par-là, mais voilà, l'idée, c'est de se tenir à ce rythme-là de 2 vidéos par mois. Comme je te le disais, on a des vidéos qui sont courtes, donc qui traitent vraiment d'un sujet en particulier, que ce soit en faisant un résumé de livre, que ce soit en faisant une analyse d'un service client, je pense notamment à Starbucks, ou même des vidéos un peu plus productivité, où on parle d'une technique, d'une astuce sous moins de 10 minutes. Ça, c'est un format de vidéo. Et l'autre format de vidéo, c'est plus podcast, interview, qui dure, lui, plus autour de 30 minutes, 45 minutes. Donc l'idée, c'est d'alterner ces deux formats-là, de faire les deux tous les mois. Et donc voilà, donc c'est un petit peu nos deux formats types qu'on essaie de sortir tous les mois, donc sous le rythme de publication de une vidéo toutes les 2 semaines. Et donc voilà. Après, moi, au niveau du temps que ça.
Et sur la partie budget et le temps que ça te prend.
Ouais, au niveau du budget, bah on gère tout seul, donc on fait tout seul. C'est moi qui m'occupe, enfin principalement avec l'aide d'Antoine de la chaîne. Il n'y a pas vraiment d'autres prestataires qui arrivent, même si on commence à penser à déléguer un petit peu la partie vidéo verticale, la partie retranscription de contenu sur les formats longs. Parce que pareil, ça demande du temps, donc on essaie de le tester déjà en interne avant de le déléguer pour voir comment bien gérer ça. Mais sinon, on fait tout seul. C'est moi qui m'occupe de la préparation, du script, du tournage, du montage et après de la publication et de gérer la chaîne. et au niveau du temps que ça me prend, c'est vraiment variable en fonction des semaines. Il y a des semaines où je passe vraiment beaucoup de temps et où les nuits sont courtes, on va dire. Mais il y en a d'autres où c'est un peu plus tranquille. Mais je dirais qu'en moyenne, on est un peu plus de, je sais pas, je dirais entre 40 et 50 heures en général par semaine. Avec toute la partie...
Ouais, quand même, gros travail.
Ouais, avec toute la partie, c'est pas que du travail, voilà, où tu tapes, tu écris des choses, etc. Et non, il y a aussi une partie recherche, il y a aussi une partie regarder ce qui se fait ailleurs, suivre un peu les tendances et tout. Ça fait partie du job au final. Donc le travail, il est vraiment très global sur YouTube. Je pense qu'il n'y a pas qu'une partie production, il y a aussi une grosse partie réflexion derrière.
Bah justement, tu me fais la transition parfaite. Lancer une chaîne YouTube, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est un gros boulot, ça demande de l'investissement en temps, en argent. Et donc avant d'investir le moindre euro, c'est quoi selon toi les bonnes questions à se poser, en tout cas celles que vous êtes posées avant même de commencer la production?
Les bonnes questions à se poser, c'est déjà de réfléchir à ce qu'on veut faire. Au final, ça part de là, hein, l'idée part de là, qu'est-ce que tu veux faire sur YouTube, pas forcément dans quel but. Mais il faut pas réfléchir dans quel but ou quoi exactement, mais plus pourquoi en fait. C'est quoi ton idée derrière? C'est quoi l'idée que tu as qui fait que tu veux lancer ça? Et donc ça part de là. Je pense que tout part de là. Bien sûr, cette idée, il faut pas la figer. Elle est susceptible d'évoluer, comme je te le disais en début d'épisode. Donc nous, on n'est pas figé sur cette idée là. Et une fois que tu es assez clair sur la réflexion, il faut pas non plus, à mon sens, hein, c'est après vraiment ce que je dis, ça, on a que des pincettes, on n'est pas une grosse chaîne non plus, on avance à notre rythme et tout, et c'est très petit encore. Mais l'idée après, c'est vraiment de mettre en pratique assez rapidement ce que tu fais pour voir non pas ce qui marche aux autres, mais enfin ce qui marche clairement pour les gens, mais plus ce qui toi te fait plaisir, ce que t'as envie de faire. L'idée, c'est de trouver ce que t'as envie de faire et ensuite voir comment c'est perçu. À mon sens, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et voilà, l'idée, c'est d'avancer petit à petit. Et au final, on pense que sur YouTube, voilà, il faut avoir des gros budgets, que comme tu disais que c'était pas forcément anodin, que c'était un gros effort. Je suis d'accord avec toi, mais au final, tu peux lancer, c'est Orelsan qui disait ça, c'est si tu as envie de faire un film, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Et je pense que aujourd'hui c'est un peu ça sur les réseaux, il faut pas non plus trop complexifier la chose avant de se lancer. Tu peux faire quelque chose de très simple, tu vois, moi j'ai commencé les vidéos avec un iPhone, je crois que c'était le 6, iPhone 6 à la base, et c'était très artisanal, très claqué, mais ça suffit pour commencer. Et l'idée, c'est d'avancer comme ça, petit à petit, d'augmenter ta qualité au fur et à mesure.
Ok, donc la réflexion, c'est un why assez clair. Mm. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Pas forcément, comme tu l'as dit, dans un but précis, parce que de manière itérative, ça va bouger, selon les résultats. Et ensuite, pas trop se poser de questions sur le passage à l'action, pas trop complexifier la prise de décision, se lancer et avancer au fur et à mesure en fonction des résultats.
C'est ça, exactement. Je pense que, en fait, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au why. C'est un petit peu je crois que c'est Simon Sinek qui décrit cette théorie-là, le pourquoi vraiment, pourquoi tu fais les choses-là. Et non, ouais, ça doit partir de là, à mon sens, l'idée d'une création de chaîne YouTube, c'est pourquoi. Et c'est vraiment la bonne question à se poser. Pourquoi? Et après, voilà, vite te mettre en action pour voir, bah, si ton pourquoi, pour valider un petit peu ton pourquoi au final, pour voir si ça te plaît, si ça te convient. Et puis après, faut surtout pas se décourager par rapport au résultat que tu vois, par rapport à comment c'est perçu. C'est surtout, il faut être ok avec ce que tu fais et après avancer dans ce sens.
Alors vous aviez votre pourquoi assez rapidement avec CRISP. Donc comme tu l'as dit, faire un média en toute humilité, hein, sur la partie care. À partir de là, est-ce que tu peux nous dérouler étape par étape, comment vous y êtes pris pour que ce soit le plus actionnable? Comment est-ce que vous avez construit la chaîne? Comme tu l'as dit, il y a eu la réflexion initiale, le pourquoi. Ensuite, ça peut être intéressant d'avoir toutes les étapes derrière, de manière à ce que les gens qui veulent reproduire ce que vous avez fait, qui veulent monter une chaîne YouTube pour leur boîte, puissent avoir un espèce de playbook. En tout cas, de savoir exactement comment est-ce que vous y êtes pris.
Ouais, bien sûr. Alors du coup, comme je te le disais, c'est... Je suis désolé, il y a un peu de bruit dehors, j'espère que ça ne s'entendra pas à l'enregistrement. Comme je te le disais, une fois que tu as ton pourquoi, il y a une part de réflexion sur le format en fait que tu vas faire. Et nous, on a vraiment choisi de faire deux formats, d'alterner le format podcast qu'on trouve très cool et qui est finalement très utilisé en B2B, et de le compléter avec un format plus court de vidéos un peu plus grand public. Et l'idée, c'était d'amener les gens qui rentrent par le biais de la porte du grand public sur ces vidéos un peu plus nichées, on va dire. Donc voilà, l'idée c'était d'alterner ces deux formats-là, et on a réussi à trouver ce bon équilibre pour alterner des formats longs et des formats courts. En parallèle de ça, je pense que c'est une bonne chose pour augmenter, enfin pour avoir une bonne durée de visionnage sur la chaîne. Donc c'est super d'avoir une alternance entre format court et format long. Et puis voilà. Après, il y a si ça peut intéresser les gens, j'imagine, qui veulent se lancer sur YouTube, il y a un framework qui est assez sympa qui est partagé par YouTube, par Google, qui est le framework des 3 H pour Help, Hub et Hero, si je me trompe pas, qui va permettre de distinguer 3 types de contenus. Donc les contenus qui sont là pour éduquer les gens, les contenus qui sont là pour inspirer les gens et les contenus qui sont là pour divertir les gens. Et l'idée, donc, en fonction de ces 3 points que je t'ai dit, chacun a son importance en proportion dans le contenu que tu vas produire. Par ordre, comme je te l'ai dit, l'objectif, c'est de faire principalement du contenu qui est là pour éduquer, ensuite pour inspirer, ensuite pour divertir. Et nous, c'est ce qu'on a un peu essayé de faire, de faire des contenus qui vont plus avoir un aspect éducatif. Donc, comme je disais, par le biais de résumés de livres, par le biais de, je sais pas, même par le biais de certaines interviews, au final, ça se retrouve assez parfois à ce niveau-là. Ensuite, pour tout ce qui est inspiré, l'idée, c'est de montrer vraiment des cas d'usage de personnes qui ont adopté des techniques en support client ou en care et qui font qu'ils se démarquent totalement sur leur marché. L'idée, c'était de parler un peu de ça, de raconter leur histoire à eux. Et ça rentre un petit peu dans cette brique-là qui est celle de l'inspiration, si je peux dire ça comme ça. Et après, la dernière, qui est celle du divertissement, qui est vraiment, elle, très occasionnelle, mais qui est censé avoir un gros impact sur le nombre de vues qu'on essaye aussi de traiter. Donc typiquement, c'est une vidéo que j'ai faite, c'est pendant une semaine, comment augmenter sa vitesse de frappe au clavier. En mode expérience, comment est-ce que j'ai réussi de passer de, je me rappelle plus, je crois que c'était 60 mots par minute à 90 mots par minute, mais au final, ça, c'est pas vraiment ça qui est important, on le voit dans la vidéo. L'idée, c'est pas forcément d'augmenter son chiffre, mais c'est plus de voir un peu la réflexion que ça a apporté entre le moment où j'ai commencé et à la fin où je me suis rendu compte que le chiffre n'était pas important et qu'il y avait autre chose de plus intéressant derrière. Je sais pas si je réponds bien à ta question.
Donc ça, c'est Ouais. Donc, si je résume sur cette étape 1, c'est la première chose, c'est de définir le format. Donc pour vous, ça a été de définir un format podcast plutôt long et grand public plutôt court, et de vous inspirer du framework 3H de YouTube pour justement varier les vidéos et faire en sorte de contenter un peu tout le monde et notamment l'algo. C'est bien ça?
C'est ça, exactement. Après, au final, tu vois, je te dis que sur les formats courts, on essaie de faire quelque chose de grand public, mais c'est pas totalement vrai au final, parce que tu vois, on traite quand même des sujets très particuliers sur. Je sais pas si tu connais le livre L'obsession du service client.
Oui. Et ben, on me l'a déjà cité dans le podcast.
Ok.
Je crois que c'était dans le 3e épisode, Solène.
Ok, super. Bah écoute, L'obsession du service client de Jonathan Lefebvre, on a fait une vidéo résumée de ce livre qui dure 10 minutes, et au final, tu vois, c'est pas forcément une vidéo très grand public, ça reste très niché, et notre sujet est quand même très très niché, il faut le rappeler. Et donc voilà, l'idée c'était d'alterner plus du contenu court, en fait, qui ne va pas être grand public, mais va être plus accessible, j'ai envie de dire. Ça fait moins peur de cliquer, surtout aujourd'hui, où les gens sont attirés vraiment par le contenu court et rapide. Ça fait moins peur de cliquer sur une vidéo qui dure 10 minutes ou un peu moins que sur une vidéo qui fait 30 minutes ou 45 minutes.
Ok, je comprends. Donc ça, c'est la première étape, définir le format. Ensuite, c'était quoi les étapes suivantes?
Et les étapes suivantes, c'est l'organisation, vraiment organiser ces différents contenus sur des périodes de... Bah, au début, ça se faisait vraiment... on voyait ça... Enfin, on pouvait avoir un espace de un mois, tu vois, ou deux mois pour définir les contenus qu'on allait faire. C'était vraiment sur le coup, hop, j'ai une idée de vidéo, je la fais. Il faut que ça reste cohérent avec ce qu'on a fait avant et ce qu'on va faire après pour pas trop se perdre. C'est pour ça que je te disais qu'on alternait contenu court, si je peux dire ça comme ça, parce qu'au final, c'est pas très court, et contenu plus long. Mais voilà, l'idée, c'était plus d'organiser les choses de cette façon-là. Et puis là, depuis le début de l'année, pour le premier semestre, on a une échelle un peu plus longue sur la production où on s'est donné une période de six mois, pour vraiment organiser tous nos contenus. Même si, à mon sens, il faut rester très très flexible par rapport à ça, parce que au final, ce qui marche beaucoup sur YouTube, c'est les tendances. Et les tendances, on peut pas les prévoir pendant 6 mois. Enfin, on peut, mais tu vois, ChatGPT, il y a peu de personnes au final.
Tu peux peut-être juste expliciter la notion de tendance sur YouTube, ce que ça signifie concrètement.
Oui, bien sûr. Bah, tu vois, typiquement, l'intelligence artificielle en 2022, fin 2022, ça a pop. Il y a beaucoup de personnes de la tech qui pensaient que voilà, la prochaine tendance c'était les cryptos, que c'était le métaverse. Ou autre. Et au final, l'intelligence artificielle, ça en a surpris plus d'un, même si il y en a beaucoup qui pouvaient s'y attendre, évidemment. Mmh. Et on s'est tous retrouvés là avec ChatGPT que beaucoup utilisent aujourd'hui dans leur travail, qui fait encore beaucoup de bruit et qui va, à mon sens, en faire encore beaucoup dans le futur. Et voilà, ça, c'est une tendance, typiquement. Ça arrive d'un coup, ça pop et tu vois ça partout. Et par rapport à ça, moi, j'utilise un outil que beaucoup utilisent, j'imagine, mais qui est Google Trends, pour vraiment mesurer l'impact des recherches dans le temps sur les moteurs de recherche que sont Google, YouTube. Tu peux aussi choisir YouTube, ouais. Et c'est tout. Enfin, il y en a d'autres, mais moi, c'est les deux que j'utilise principalement. Et voilà, en fait, il faut être assez flexible sur les tendances parce que tu peux pas les prévoir, comme je te disais. Et même si t'as un calendrier éditorial qui est prévu sur 6 mois, il se peut que dans 3 ou 4 mois, il y ait une grosse opportunité qui se présente autour d'un sujet et qu'il faille la traiter. Donc voilà, il faut savoir aussi déplacer certains sujets à certains moments.
Ok, donc pour toi, il y a quand même une flexibilité à avoir au-delà du calendrier édito que tu prévois plusieurs mois à l'avance.
Voilà, c'est ça. Et puis il y a des contenus que tu peux faire... Il y a des contenus qui sont là pour durer dans le temps, qui sont pas... que tu les publies aujourd'hui ou dans... Enfin, je suis pas l'algorithme de YouTube, hein, ça se trouve, je me trompe, mais que tu peux publier aujourd'hui ou dans 6 mois, ils auront toujours de la valeur, j'ai envie de dire. Tu vois, il y a des vidéos qu'on a faites au début qui, à mon sens, ont toujours de la valeur. Typiquement, le résumé du livre L'obsession du service client, il n'y a pas vraiment de tendance autour de ça, et pourtant le contenu va bien perdurer, j'ai envie de dire, parce que la valeur est là. Ça se base pas sur une tendance. Et ces contenus-là, tu peux les déplacer un peu plus long si t'as vraiment une tendance qui pop et que tu dois placer sur un moment donné.
Ok. Donc, je reviens sur notre playbook étape par étape. Donc, vous avez défini le format, le nom. Est-ce que vous avez fait une pré-annonce sur vos réseaux? Combien de temps avant vous avez contacté les invités? Enfin, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les coulisses?
Ouais, bien sûr. Bah écoute, donc comme je te disais, ça fait 10 mois que j'ai rejoint Crisp. Pendant peut-être 3 ou 4 mois, on a travaillé un peu dans l'ombre sur toute la partie nom, branding, etc. Donc par rapport à ça, on est passé par un collectif de graphistes qui se sont occupés de toute la brand, tu vois. Ça a fait partie de la réflexion aussi d'ailleurs. Et ensuite, une fois qu'on avait bien les choses au clair sur ce qu'on voulait lancer, on a lancé du coup Derrière la Bulle à la rentrée de septembre. Donc on a communiqué sur nos réseaux, que ce soit Antoine, Baptiste, d'autres personnes de chez Crisp ou même moi, pour annoncer qu'on lançait ce projet-là, que voilà, Crisp lançait ce projet-là. Et on a également une petite newsletter en interne chez Crisp avec certains utilisateurs qui utilisent Crisp en France, donc sur la partie francophone plutôt, auquel on a partagé ce projet-là. On a un petit peu extendu avec le avec le temps cette newsletter. Et voilà, c'était notre principal canal de diffusion au départ. C'était pas non plus énorme, mais ça donnait un petit peu d'impulsion au début, faut pas se mentir. Et voilà.
Ok. Et en termes de production aujourd'hui, comment est-ce que tu t'organises? Tu vois, c'est quoi un petit peu le back-office? Peut-être tu utilises Notion pour le montage, comment est-ce que tu t'y prends? Quel outil pour publier pareil? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu de matière dessus?
Ouais, bien sûr. Alors, moi, je suis un grand fan de Notion, même si j'utilise aussi beaucoup les notes d'Apple au final, parce que je trouve que c'est un outil qui est simple à utiliser et qui fait très bien le taf. Notion, c'est plus pour avoir une vue d'ensemble sur le projet, pouvoir voilà savoir comment organiser les choses de façon très globale. Dans Notion, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un tableau avec plusieurs colonnes. Une colonne idée où je mets toutes les idées de vidéos qu'on pourra avoir, une colonne en production entre guillemets ou vidéo à préparer, donc notamment sur la partie script, une colonne à enregistrer, une colonne à monter, une colonne à publier et une colonne terminée quand la vidéo est publiée. Et dans chaque colonne, je crée une carte, du coup, avec un template que j'ai préparé où j'ai tous mes éléments qui sont, du coup, le script, la préparation, enfin bref, ça c'est vraiment en fonction de l'épisode. Comme je te disais, si c'est un épisode court, ça va être différent de si c'est un épisode long parce qu'il n'y a pas la partie invité à prévoir. Et donc voilà, j'ai deux templates que j'utilise et que j'inscris dans ces cartes-là. Et puis voilà, par rapport à cette partie-là, ça me semble clair. Après, j'ai aussi une partie calendrier qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur les épisodes à venir. Donc voilà, c'est très artisanal. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de... C'est assez simple à faire au final, ces templates-là. Je suis sûr qu'on peut en retrouver sur Internet. Il doit y avoir des templates qui existent, qui sont déjà faits pour tout ça. Les templates, je trouve ça bien. Tu vois, juste pour faire une petite parenthèse là-dessus, je trouve ça bien, mais... Moi, j'ai préféré ne pas en utiliser parce que je voulais vraiment commencer avec quelque chose de simple qu'on va améliorer avec le temps. Donc, tu vois, le Notion que j'avais au début, il est pas aussi bien que celui que j'ai aujourd'hui. Et on l'a fait grossir on l'a développé par rapport à nos besoins. Donc, les templates, ça peut être une bonne chose pour avoir un modèle de base, mais je pense qu'il faut pas trop s'enfermer là-dedans non plus. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime travailler. Et ensuite, par rapport à ta question sur la préparation des épisodes en tant que tel, donc pour les formats longs...
Préparation, bon, production, pareil, si t'as le matos à nous partager, enfin, comment est-ce que
ouais.
Vous l'avez fait évoluer au fil des mois et pareil, les outils?
Alors, sur la partie du coup production, donc pour les épisodes qu'on fait tout seul, c'est pas très compliqué, hein, c'est préparation, donc déjà réfléchir, faire un petit peu un brainstorming, réfléchir aux idées, regarder ce qui s'est déjà fait, trouver une idée qui se démarque, et puis surtout essayer de créer un arc narratif autour de cette idée-là, pour apporter, moi c'est quelque chose que j'aime bien, pour apporter un aspect storytelling en fait à la chose. Tu vois, tout à l'heure je te parlais de la vidéo, comment taper plus vite au clavier. Je voulais pas faire un listing de toutes les techniques qui existent, je voulais faire plus à essayer de raconter une petite histoire au travers d'une petite vidéo de 5 minutes. Ouais, c'était 5 minutes. L'idée, c'était de montrer que, parce qu'en fait, une histoire, il y en a beaucoup qui complexifient la chose à ce niveau-là, qui pensent que voilà, il faut raconter des grandes choses, etc. Mais non, moi, j'estime que c'est vraiment quelque chose de simple. Au final, c'est juste montrer un changement entre le début et la fin. Et à partir du moment où il y a un changement, t'as déjà raconté quelque chose. Donc c'est plus dans cette optique-là que j'essaie d'apporter une touche de préparation personnelle aux épisodes, aux vidéos. Ensuite, il y a la partie script. Donc moi, je teste encore des choses. Hein, tu vois, je suis pas un pro. Je teste encore différentes façons de travailler. J'ai longtemps, pendant très longtemps, scripté toutes mes vidéos. Aujourd'hui, j'essaie de faire un petit peu différent, de scripter certaines parties, notamment les intros qui sont très importantes sur YouTube, parce que, en fin de compte, parce que c'est vraiment l'accroche et c'est ce qui fait que les gens vont regarder la vidéo. Une bonne vidéo, c'est une vidéo qui est vue dans un premier temps. Donc, ça passe notamment par l'accroche. Il faut vraiment que les gens aient envie de rester jusqu'à la fin. Donc ça, c'est le premier point. Scripter les vidéos ou non, ça dépend des sujets, ça dépend de comment tu es à l'aise à parler des choses. Voilà, pour les vidéos qui sont faites avec des invités, je les contacte généralement à l'avance pour leur expliquer un petit peu l'approche de la vidéo, voir un peu leurs idées, voir s'ils seraient chauds, voir comment on pourrait bosser là-dessus ensemble. J'essaie aussi de me renseigner sur la personne pour comprendre un peu avec qui je vais discuter plutôt, parce que c'est une conversation qui s'en tire. Et voilà, on fait une petite partie de 30 minutes pour préparer chaque épisode. Ensuite, moi, je travaille de mon côté sur toute la partie questions, sur tout ce que je vais lui poser comme question. On enregistre l'épisode. Et après, comme la partie vidéo plus courte, il y a la partie montage qui s'en dégoule. Et par rapport à ça, j'utilise Final Cut.
Tu montes beaucoup ?
Ouais, je monte pas mal quand même. Je monte vraiment pas mal. Je monte sur Final Cut. Et j'essaie d'apporter quelque chose de différent aussi là-dessus sur les podcasts. Tu vois, sur des vidéos d'interview qui durent 30 minutes, ce que peu de personnes voient, c'est que derrière, il y a peut-être 10 minutes, donc, ouais, 10, 15 minutes, ouais, 10 minutes, facile, qui sont coupées où c'est juste des blancs. Et en fait, il y a plein de cuts dans les vidéos et dans les vidéos podcasts ou interviews. Et pour moi, ça permet de raccourcir le temps de vidéo et donc d'augmenter au final ton pourcentage moyen de vidéos regardées, donc ton watch time, c'est ce qui est appelé le watch time, parce que t'as une grosse partie qui est réduite en fait. Et là où beaucoup de personnes vont aimer, je sais pas si c'est ton cas, mais là où beaucoup de personnes vont aimer consommer une vidéo podcast en accéléré, là, ils vont pas forcément avoir besoin de faire cet effort-là parce que la vidéo est compressée de manière naturelle avec les blancs qui sont coupés. Ça, c'est un travail que j'essaye de faire. Là, je suis tombé sur un truc derrière moi, c'était en début de semaine, qui s'appelle... Attends, je vais retrouver ça. Je crois que ça s'appelle Recut. Ouais, il me semble que c'est Recut. Ça permet de... C'est une espèce d'intelligence artificielle qui permet de le faire tout seul. Ouais, c'est Recut. Donc c'est un outil
assez lourd, ça.
Ouais, ça a l'air très intéressant. Ça me dit que j'aimerais bien tester dans le futur, donc je le garde sous la main. Et donc voilà, après on monte toutes les vidéos, clairement toutes les vidéos. Et puis au niveau du matériel, pour ce qui est interview, podcast, j'utilise Riverside pour enregistrer avec nos invités. Et pour les vidéos où comme sur cet épisode là. Et pour les vidéos où je suis tout seul, j'ai un GH5 que j'ai depuis un moment. Et puis sinon, on a grossi petit à petit le matos avec notamment les lumières, le micro. On a un petit peu aussi amélioré la qualité. On est passé sur un Rode classique que beaucoup utilisent. Je connais pas la ref. Je crois que c'est le M1. Enfin, j'ai peut-être dire une bêtise, mais c'est un Rode assez classique. Et puis voilà.
Le Rode, hein, je précise, c'est le micro. Il y en a, je crois que le plus connu, ça doit être le SM7B ou quelque chose comme ça. Enfin bref,
ça doit être
un peu la Rolls des podcasteurs, forme plutôt allongée. Voilà, ça c'est quand on fait du podcast, on commence à s'intéresser au modèle de micro. Ok, super. Moi, j'aimerais bien. T'as parlé des vidéos, de la manière dont tu les créais. C'est quoi, selon toi, avec le recul et avec ta propre expérience, encore une fois, l'idée, c'est pas de dire voilà la vérité. C'est quoi, selon toi, les ingrédients d'une bonne vidéo pour faire une vidéo captivante, qui soit regardée, qui génère de l'engagement. Enfin voilà, c'est quoi un petit peu ce que t'as observé de ton côté?
Ouais. Juste avant de répondre à cette question, je vais juste revenir sur un truc que j'ai oublié de mentionner juste avant pour les épisodes qui sont faits avec nos invités. Il y a une erreur que j'ai faite au début que je ne referai plus du tout et que sur laquelle j'aimerais peut-être aider les personnes qui se lancent. C'est quand on fait un podcast à distance ou qu'on fait un enregistrement à distance, il y a la question de l'audio qui se présente parce que nos invités ne vont pas forcément avoir du matos, etc. Et qu'il faut trouver un moyen d'apporter une bonne qualité à l'épisode tout en ayant un invité qui n'est pas forcément sur un lieu physique, parce qu'on fait tous nos enregistrements à distance par le Riverside. Et au début, ce qu'on faisait, c'est qu'on achetait des micros pour nos invités qu'on leur offrait, clairement des micros. Bon, ça a un coût. Donc, on n'a pas poursuivi cette démarche-là. Et au final, une solution très simple qui existe, c'est les écouteurs ou les casques. Donc, en fait, c'est ce qu'on fait avec tous nos invités. On leur demande juste d'avoir des écouteurs parce que ça facilite beaucoup l'enregistrement et surtout le montage après, par la suite, au niveau de la qualité. Donc voilà, petit tips en plus.
Ouais, complètement. Ça c'est, je le dis à tous les invités, d'avoir un minimum du filaire, d'éviter le Bluetooth.
Voilà,
j'ai pas de. Enfin, il y a de la déperdition. C'est.
Là, j'ai pas de casque ou d'écouteurs pour le coup, mais j'ai le micro qui enregistre juste à côté, donc je pense que ça devrait être bien aussi, qui est branché en filaire. Et du coup, par rapport à ta question sur...
Donc ouais, la question juste avant, c'était sur les ingrédients d'une bonne vidéo par rapport à ce que tu as vu aujourd'hui. C'est quoi? C'est le titre? C'est la manière dont... Est-ce que c'est la manière dont c'est tourné? Ça doit être dynamique, plan rapproché? Enfin bref, qu'est-ce que tu as appris là-dessus?
Ouais, alors, comme je te le disais avant, une bonne vidéo déjà, à mon sens, c'est une vidéo qui est vue tout simplement... Donc faut une bonne accroche. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Tu vois, même sur nos formats podcast qui durent 30 minutes, on travaille chaque introduction vraiment de façon assez pointue pour avoir une bonne accroche sur l'épisode et de faire en sorte que les gens aient envie d'écouter tout l'épisode. Donc ça, c'est un premier point. Il faut que l'accroche soit la plus pertinente possible. La question du rythme, donc de rendre ça dynamique ou non, elle se pose, il n'y a pas vraiment de règle au final parce que tu vois des personnes qui font des vidéos avec un rythme très lent qui cartonne sur YouTube. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun. Il faut juste que, en fait, le fond soit pertinent. Le fond, c'est un point, la forme, c'en est un autre. C'est vrai que les gens aiment les formats dynamiques, ça, c'est indéniable, mais il faut que le fond soit cohérent avec. Et si tu arrives finalement à montrer un intérêt, à avoir un intérêt, donc que ce soit avec, je sais pas, un paradoxe ou un bénéfice que les personnes vont pouvoir tirer de la vidéo s'ils l'écoutent jusqu'au bout, ça reste du fond, en fait. Et c'est là-dessus qu'il faut s'axer, à mon avis. Donc, ça, c'est le premier point. Vraiment, avoir une bonne accroche pour la vidéo. Et ensuite, au niveau des métriques, comme tu disais, il y en a deux aujourd'hui qui sont vraiment... qui paraissent un peu indispensables sur YouTube, c'est le watch time, comme je te disais, le pourcentage moyen de vidéos regardées, et le taux de clic, excuse-moi. Donc le taux de clic sur la vidéo.
Et le taux de clic, ouais.
Voilà. Et en fait, c'est ce que je te disais, une bonne vidéo, c'est une vidéo qui est regardée jusqu'au bout, donc ça passe par l'accroche et... l'envie que vont avoir les gens à regarder la vidéo jusqu'au bout, mais ça passe aussi à l'envie que vont avoir les gens de cliquer sur la vidéo. Et sur YouTube, tu vois, ça passe par le titre et la vignette, et la miniature, qui est très importante.
Ouais.
Donc voilà, pour moi, c'est les deux métriques à prendre en compte qui font une bonne vidéo. Bon, bien sûr, il y en a qui diront que non, évidemment, mais tu peux avoir des métriques qui sont pas terribles au niveau de ton taux de clic ou de ton pourcentage moyen de vue, de ton watch time, et finalement avoir une bonne vidéo parce que tu la trouves bonne. Il faut pas non plus trop calculer ses performances de vidéo derrière ces métriques là parce que c'est un peu biaisé, je pense, mais ça reste quand même assez indispensable si tu veux performer l'algo. Ouais.
Et c'est quoi un petit peu tes recos là sur les vignettes et les titres? Parce que comme tu l'as dit, tout part de là en fait. C'est en quelque sorte le début de l'accroche. Donc il faut que ce soit le plus efficace possible. Qu'est-ce que tu as appris? Comment est-ce que tu t'y prends de ton côté pour avoir quelque chose qui soit le plus attractif possible?
Ouais, il y a plusieurs points à ce niveau-là. Il y a vraiment plusieurs points. Tu vois, Antoine, que tu as déjà interviewé du coup sur le podcast, Antoine Goré, est très très bon en SEO, et lui il aime bien cette approche là aussi pour les vidéos, d'apporter une approche SEO pour vraiment se pouvoir être affiché dans la barre de recherche dans les recherches typiquement de YouTube. Donc ça, c'est un point. Moi, je suis plus fan des choses qui vont être percutantes sans forcément être putaclic, mais plus des concepts qui vont être un peu qui vont être intrigants, tu vois, sur lesquels il va y avoir un paradoxe, typiquement Je sais pas comment, ça c'est un bon exemple, et puis la vidéo a plutôt bien marché au final, mais la vidéo comment augmenter son taux de clic au clavier en une semaine, c'est pas forcément des recherches qui vont être basées sur du SEO, mais plus sur un aspect comment dire, intrigant ou bénéfique.
Curiosité.
Voilà, c'est ça. Donc la vérité, elle se trouve entre ces deux approches-là, entre l'approche de Antoine et entre la mienne, je pense. Et il faut savoir juste trouver la bonne formule pour chaque vidéo, en fait. C'est ça qui est un peu compliqué, c'est que chaque vidéo doit avoir à mon avis une approche différente au niveau de son titre et de sa miniature. Et après, au niveau de ce qui marche, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de ce qui a déjà été fait. Si tu vois qu'au final sur un certain type de recherche, il y a pas de vidéos qui ont été inscrites, ça peut être pertinent d'inscrire un mot clé sur cette recherche là. Ça c'est un point. Sur d'autres, il faut plus viser du format. J'aime pas dire putaclic, mais ça marche, hein, c'est indéniable. Et donc voilà. Donc plus par le biais de paradoxe ou par le biais de cette notion de changement dont je te parlais tout à l'heure sur le storytelling, elle passe aussi sur les miniatures, tu vois, en montrant un changement entre un concept ou un objet ou quelque chose à gauche et quelque chose à droite, ça marche très bien, tu vois. Ça c'est je sais pas si tu vois de quel format de miniature je veux parler, mais vraiment montrer un changement entre le côté gauche et le côté droit de la miniature, ça reste très pertinent aussi aujourd'hui. Voilà.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres points justement à améliorer par rapport à l'algo YouTube, tu vois, sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok, il y a plein de gens. Le hook, de toute façon, ça revient tout le temps, l'accroche, ça c'est clair. Ici, la vignette, elle est hyper importante. Est-ce que tout ce qui est, j'en sais rien, moi, descriptif, hashtag, et c'est quoi un petit peu, est-ce qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte pour faire en sorte que la vidéo, elle soit vue?
Encore une fois, tu vois, par rapport à ça, bon, moi, j'ai un peu pris... c'est Antoine qui m'a apporté cette vision-là et je suis assez d'accord avec lui. Pour lui, le SEO, ça reste très important aussi en description. Au début, j'étais pas du tout fan de cette approche-là. Enfin, c'est pas que j'étais pas fan, c'est que je me disais, bon, c'est pas le plus important. Et je continue de penser ça. Je pense que c'est pas le plus important, mais que c'est un plus qui est non négligeable. Donc, il faut faire l'effort, à mon avis, de bien travailler ces descriptions, au moins. Les tags, c'est un autre point, mais les descriptions, au moins, c'est important de les travailler pour pouvoir s'inscrire sur certaines recherches. Et après, il y a aussi cette question, et ça, je suis pas trop renseigné à ce niveau-là, mais ça se trouve, YouTube, directement avec la retranscription automatique, fait ce travail de SEO et de placement sur du contenu avec ce qu'ils comprennent de ta vidéo, tu vois. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas trop savoir. L'algorithme de YouTube, il reste assez mystérieux à ce niveau-là. Donc, voilà, c'est quelque chose d'important. Je pense que c'est pas quelque chose sur lequel il faut perdre trop de temps, mais il faut quand même essayer de s'y consacrer. Et aujourd'hui, avec les outils d'intelligence artificielle qu'on a, même si certains disent que c'est pas forcément une bonne approche parce que justement YouTube arrive à détecter ce qui a été fait avec une intelligence artificielle, il y a de quoi un peu optimiser le temps que tu passes à faire tes descriptions, etc.
Ok, super intéressant. Je vais pas développer là-dessus parce que c'est vrai que le temps file et on a d'autres sujets, ouais. Notamment la partie distribution et KPIs. Mmh. Et après, j'ai quelques petites questions à gérer pour terminer. Sur la partie distribution, aujourd'hui, c'est quoi un petit peu votre process pour amplifier tout ce travail de création de contenu et faire en sorte d'avoir un maximum de gens qui découvrent en fait la chaîne?
Ouais. Écoute, il y a dans un premier temps la newsletter qu'on a avec Crisp. Ça c'est un point qui est pas négligeable et qui apporte quand même pas mal de trafic. Je dirais qu'au début ça apportait jusqu'à 50% du trafic, hein, mine de rien, quand même c'est pas négligeable. Donc dans la newsletter, on a vraiment segmenté pour lancer le truc petit à petit. On doit avoir aujourd'hui 8000 personnes dans la liste. Bon, après ça reste des personnes qui sont pas rentrées qui sont pas rentrés par la porte de derrière la bulle. Donc il y en a beaucoup qui ne consomment pas les contenus, tu vois. C'est vraiment un petit segment de ce segment-là. Donc voilà, ça c'est le premier point. Les newsletters, donc pareil, on essaie d'en envoyer une toutes les deux semaines que je travaille essentiellement tout seul et qui sont assez simples, qui respectent le framework AIDA que tu dois connaître, j'imagine. Donc attention, intérêt, désir et action. Et on essaie de mettre la miniature dans le mail pour que ça soit plus sympa avec toute la charte graphique qu'on a aussi développée. Et donc voilà. Donc pour les personnes que ça intéresse de recevoir ces mails, il suffit juste de s'inscrire. Et après, en vrai, c'est un travail qui est fait manuellement, mais généralement on essaie de mettre à jour ça sur comme tu disais sur certains segments en fonction de s'inscrire sur Crisp, pardon. Et on essaie de manuellement ajouter ces nouvelles personnes en fonction des interactions qu'on a avec elles dans le live chat directement. Et donc voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, on essaie aussi de la diffuser sur LinkedIn, la vidéo. Ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue de développer au fil des mois, qui marche bien au final et qu'il faut qu'on continue de développer. Et puis sinon, ça reste, en vrai, c'est essentiellement de l'algorithme YouTube. Hein, c'est là-dessus qu'on compte aussi beaucoup.
Ouais, et notamment, j'imagine, avec les shorts que tu as mentionnés au début, qui doivent être des petits extraits, des longs formats, et qui permettent derrière d'essayer, en tout cas, de capter un petit peu de viralité pour rediriger vers ces grandes vidéos, c'est ça?
Ça, c'est vraiment très, très puissant. C'est vraiment très, très puissant. Tu vois, parce qu'on le fait en shorts, mais... c'est un peu cette bataille qui se passe en ce moment entre Shorts et TikTok, qui va l'emporter sur les formats verticaux. Et TikTok, c'est aussi très très puissant. Tu vois, là, on a vu une vidéo il y a quelques semaines qui a fait 65 000 vues et qui j'imagine, on peut pas quantifier tout ça, mais qui, j'imagine, a apporté quand même pas mal de trafic sur la vidéo principale qui est sur YouTube. Et non, ouais, c'est un très très bon moyen de faire de la retranscription de contenu, les Shorts. Donc, et d'attirer du coup du monde sur les fonds.
En fait, vous utilisez, en fait, pour la distribution, vous faites aussi des shorts, des TikTok, vous faites des réels sur Instagram, c'est quoi un petit peu les différents formats que vous utilisez pour amplifier?
Bah, une fois que t'as fait ta vidéo, une fois que t'as fait ta vidéo verticale, tu l'as faite, donc t'as fait le plus gros du travail, et il suffit après de la diffuser. Donc c'est pour ça que nous, on a décidé de la diffuser sur ces trois canaux, comme tu as dit, donc Shorts, TikTok et Reels sur Instagram. Instagram, ça a pas très bien marché, honnêtement. Y a pas des très bons retours par rapport à ça. Nos vidéos sont pas aussi bien recommandées que sur TikTok ou Shorts. Et aujourd'hui, ce qui marche vraiment le mieux, c'est Shorts, c'est TikTok. Et je dirais que les deux sont très puissants, qu'il n'y en a pas un qui domine l'autre. Même si TikTok a quand même... Quand ça pète une vidéo, ça pète vraiment. Et ça explose. Tu vois, genre, c'est vraiment surprenant. Mais t'as ce truc aussi qui fait que les gens, s'ils veulent consommer la vidéo longue, parce que voilà, les vidéos verticales qu'on fait sont exclusivement retranscrites à partir des formats longs. Et donc, si les gens ont envie de voir la vidéo longue directement, t'as ce truc où il faut changer de plateforme, où il faut aller sur une autre application, sur un autre canal, et c'est peut-être, t'as beaucoup de pertes, à mon avis, qui se fait à ce niveau-là. Alors que sur YouTube, avec les shorts, je pense que ce taux de conversion est un peu plus élevé, même si on peut pas le quantifier aujourd'hui. Et en plus de ça, t'as ce point aussi qui fait que tu peux ajouter une vignette, en fait, sur ta vidéo, sur ton short, pour rediriger vers la vidéo longue. Ouais, dis-moi.
Ouais, vas-y, pardon. C'est un petit peu de décalage, du coup, je t'ai coupé.
Ah mince, désolé. Tu sais, c'est cette petite fiche qui s'affiche en haut à droite de la vidéo. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On peut aussi l'afficher sur les shorts. Donc ça, c'est pas mal au final pour rediriger vers le contenu initial.
Ok, intéressant. Et vous faites un seul short par vidéo, ou est-ce que vous en faites plusieurs et vous les distribuez dans la semaine? Si oui, est-ce que vous les diffusez sur des jours particuliers, enfin, est-ce que tu peux nous donner un peu d'insight là-dessus?
Ouais, bien sûr. Bah écoute, c'est vrai que c'est une très bonne question. J'ai oublié de te répondre tout à l'heure. Nos jours de publication sur Derrière la Bulle, c'est pour les vidéos normales, c'est le mercredi généralement. Et et au niveau des shorts, il y a pas de jour, enfin en tout cas moi j'ai pas l'impression qu'il y a un jour bien particulier. C'est à mon avis très compliqué, enfin beaucoup plus que ce que je vais dire ou pas finalement, je sais pas trop, mais généralement quand tu publies une vidéo, elle pète d'un coup sur les shorts, elle explose d'un coup et elle va repartir un jour après, 24 heures après, sur à peu près le même créneau. Mais ce créneau horaire, il peut dépendre. Des fois c'est à minuit. J'ai l'impression que le soir ça marche quand même assez bien, mais je peux me tromper, hein. Des fois à mon avis t'as des contenus qui marchent très bien à 15h ou à 11h. Donc ça dépend vraiment. Voilà, il n'y a pas vraiment de jour où j'ai l'impression qu'il y a des meilleures performances. Je pense que l'algo fait bien son travail à ce niveau-là, qu'il n'y a pas un jour en particulier. Sur TikTok, c'est un peu pareil de ce que j'ai l'impression. Bon, après, je te dis, je suis pas forcément un expert là-dessus et je serais curieux d'avoir l'avis de personnes qui sont meilleures sur vraiment les jours bien précis où faut publier. Mais moi, de ce que j'ai pu tester, j'ai pas l'impression qu'il y a un jour où ça se démarque plus que d'autres, ou un horaire où ça se démarque plus que d'autres. Voilà.
Ok. Et pour récapituler, du coup, à chaque fois qu'une vidéo sort, donc il y a une newsletter, il y a la diffusion de la vidéo sur LinkedIn.
Ouais.
Et ensuite, il y a les shorts, hein, que ce soit Reels, Instagram, Reels, TikTok ou shorts sur YouTube. Ces trois leviers-là. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous activez?
Ouais, par rapport à ça, juste très brièvement, les newsletters et les redirections sur LinkedIn, on essaie de les faire, même les shorts, on essaie de les faire quelques jours après la publication de la vidéo, pour laisser l'algo vraiment travailler tout seul au début. Et trouver un petit peu l'audience de la vidéo. Donc ça, on essaie d'attendre peut-être une semaine en général pour avant d'envoyer tout ça, avant de push là-dessus. Et puis tout à l'heure, j'ai oublié de te répondre, excuse-moi, pour les vidéos, en fait, les retranscriptions de contenu, les vidéos verticales, on les fait que sur les formats longs. L'objectif dans le futur, c'est de le faire aussi sur les formats plus courts, mais bon, ça demande du temps et du travail en plus, donc c'est déjà assez difficile de tout gérer tout seul, donc faut qu'on trouve un moyen de le faire, mais de le faire bien surtout. Donc sur une vidéo de 30 minutes, j'essaye en général de faire 8 vidéos verticales pour pouvoir avoir une marge de 1 mois sur laquelle on va pouvoir publier 2 vidéos verticales par semaine. Jusqu'à la prochaine vidéo, vidéo longue où on va pouvoir refaire ce même travail là. Et donc voilà, et pour répondre à ta question, non, il n'y a pas vraiment d'autres façons de balancer son contenu, on va dire. Après, si, il y a des petites techniques, en vrai. Il y a des petites techniques.
Twitter, vous n'utilisez pas du tout?
Twitter, on n'utilise pas beaucoup, non. On n'utilise même pas du tout. Après, à tort peut-être, hein. Vraiment, je pense qu'en fait, il n'y a pas de, faut savoir trouver ce qui marche. Faut savoir tester plein de choses et trouver ce qui marche. Aujourd'hui, nous, la newsletter, ça marche bien. Et les gens aiment bien nos newsletters finalement parce qu'on met pas mal de temps dessus quand même, et elles sont, je trouve, sans toute modestie, tu vois, elles sont quand même assez bien travaillées et ça marche bien. Après, tu vois, je te disais, il y a des petites techniques qui existent aussi, il faut savoir parfois hacker le truc, tu vois. Il y a un livre pour lequel on a fait un résumé qui est l'expérience client, pardon, une histoire d'émotion d'Angélique Gérard, qui raconte un petit peu le développement du service client de Free, donc de comment ils sont passés de moins de 100 personnes dans le service client à aujourd'hui plus de 7000 personnes. Et en vrai, l'histoire, elle est trop cool, tu vois. Vraiment, elle est géniale. Et une chose qu'on a faite quand on a publié cette vidéo, quelques jours après la publication, c'est qu'on a été sur des forums parce que Free a des communautés très, très engagées de personnes. Vraiment, les freelancers sont très, 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 très engagés, et c'est une grosse communauté. Je pense que dans tous les opérateurs français, c'est vraiment très costaud. Et du coup, l'idée, c'était de balancer cette vidéo directement par le biais de leur groupe communautaire sur les forums, et de faire un message pour expliquer un petit peu ce qu'on a fait, et puis pour donner accès à ceux qui connaissent pas l'histoire, à l'histoire de Free. Et ça, tu vois, c'était un petit hack qui a bien marché au final, et qui a fait que, je sais pas, peut-être, je pourrais pas te dire, je vais peut-être me tromper, mais c'est peut-être un mois après la publication de la vidéo, j'ai remarqué qu'il y avait eu un gros pic de croissance sur les vues de la vidéo à un certain moment donné. Et c'était finalement, ça venait de ce groupe-là. Et faut savoir aussi hacker parfois ses formes de redirection. Mais en vrai, faut garder en tête que l'algorithme de YouTube et de TikTok, tu vois, notamment, reste très puissant sur du bon contenu. Si tu fais du bon contenu, ton contenu, il va être diffusé. Il faut juste en faire, trouver comment améliorer ton contenu à chaque fois et l'algo se charge du reste, en fait.
Et tiens, juste petite question, j'avais pas prévu, mais je trouve que c'est intéressant. Mm-hmm. Par exemple, là, sur une vidéo où tu vas résumer un bouquin, comment est-ce que tu la rends comment est-ce que tu la rends entre guillemets intéressante, tu vois? Lire un résumé à l'écrit, ok, tu vois, c'est sympa. Ça peut être en format bullet point avec les grandes idées mises en avant et tout. Mais sur de la vidéo, comment est-ce que tu arrives à faire que ce soit intéressant? Est-ce que c'est vous qui vous mettez en scène pour raconter un peu le bouquin et les grandes leçons? Est-ce que c'est de l'animation? Enfin, c'est quoi un petit peu le format que vous avez pris là-dessus?
Ouais. Alors, il y a deux choses par rapport à ce que tu viens de dire. Déjà, par rapport au bullet point, il y a une nouvelle fonctionnalité. Elle date maintenant d'il y a peut-être 2-3 ans sur YouTube, qui fait que c'est vraiment facile de consommer ce type de contenu parce que tu peux mettre des time codes en fait sur ta vidéo. Et ça, si tu cherches quelque chose de précis, c'est génial parce que tu sais directement où aller. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est par rapport à ce que tu disais sur l'aspect vidéo et sur l'aspect visuel, c'est que tu peux raconter les choses tout en apportant, donc tu peux raconter quelque chose de résumé de ce qu'il y a dans le livre, qui reste juste une succession de mots, avec des visuels qui sont très forts, et notamment avec de la vidéo libre de droit. Donc tu vois, par rapport à ça, nous on utilise... j'utilise plusieurs, il y a plusieurs sources, hein. il y a Pexel qui est pas mal, puis après t'as aussi Motion Array. Ouais, Pexel qui est pas mal, Motion Array qui est vraiment top sur tout ce qui est vidéo libre de droit, et puis après directement sur YouTube, hein, tu peux trouver un peu tout et n'importe quoi, il suffit de chercher. Ça, c'est une grosse partie du travail au final, on se rend pas trop compte, mais trouver des vidéos pertinentes sur YouTube pour pouvoir après les incorporer dans ta vidéo, c'est quelque chose de puissant qui marche bien et qui fait que, en fait, sur une vidéo de 10 minutes où je parle, bah, il y a peut-être 7-8 minutes où on me voit. Enfin, j'invite les gens à regarder nos vidéos pour pouvoir voir comment c'est fait, mais.
Ouais, je mettrai le lien.
Ok, cool. Il y a du coup ma tête qui est en haut à droite de la vidéo, mais on voit quand même un visuel qui est pertinent par rapport à ce que je dis. Et l'idée, c'est. C'est pas vraiment du b-roll, mais l'idée, c'est de mettre un visuel sur ce qui est dit. Donc t'as deux pistes en fait. T'as la piste où moi je parle et au-dessus t'as la piste visuelle avec la vidéo libre de droit dont je te parle.
Ok. Voilà. Super intéressant. Je mettrai tout ça et je te redemanderai les références, la Pexel et Motionary pour avoir les bonnes orthographes.
Ouais.
Peut-être pour terminer l'épisode. Ouais, vas-y.
Excuse-moi, t'as aussi un autre point que j'ai oublié de mentionner pour les musiques libres de droit. T'as plusieurs sources qui existent, mais il y en a une qui est pas mal. C'est Epidemic Sound qui est la plus connue. Et pareil, je te donnerai la ref si tu veux pour pouvoir la mettre en description de l'épisode. Mais Epidemic Sound, ouais, c'est assez puissant au niveau de tout ce qui est musique.
Ok, je me le note. Trop bien. Et peut-être donc pour terminer l'épisode, là, si aujourd'hui, pour résumer un peu tout ce qu'on s'est dit, parce qu'on s'est dit pas mal de choses, je suis une boîte B2B, je veux lancer mon podcast, c'est quoi les 3 à 5 points d'attention que je dois avoir? C'est quoi les conseils que tu me donnes aujourd'hui pour avoir des bases solides en tout cas pour créer une chaîne Et après, bon, ça marche pas, c'est un autre sujet. Mais voilà, pour résumer un peu ce qu'on sait.
Ouais, bah écoute, là, le premier point, ça va être, comme je te le disais en début d'épisode, de trouver ton pourquoi, en fait. Pourquoi tu veux faire ça? Qu'est-ce qui fait que tu veux te lancer là-dedans? Vraiment, détermine ton pourquoi et ça va te permettre de définir beaucoup de choses par la suite que sont la direction que tu veux prendre, le type de contenu que tu veux faire, le type de format que tu veux adopter. Ça, c'est vraiment la chose essentielle, trouver le pourquoi. Ensuite, une fois que tu as ton pourquoi, faut savoir mettre en action très rapidement, à mon sens. Et tu vois, pour ça, il y a vraiment ce débat qui perdure encore, qui est est-ce qu'il faut faire du contenu de qualité ou est-ce qu'il faut faire du contenu, est-ce qu'il faut faire de la quantité? Qu'est-ce qu'il faut privilégier entre la quantité et la qualité? À mon sens, la quantité ne veut pas dire moins de qualité, même si c'est vrai que quand tu travailles pendant un long moment sur un contenu, il va sûrement être de meilleure qualité et donc tu vas un petit peu négliger la quantité de contenu que tu vas faire vu que tu vas être focus que sur une chose. Mais pour commencer, je dirais que faut quand même privilégier la quantité parce que c'est ça qui va pouvoir te permettre de t'améliorer et de faire du contenu de qualité. Et tu vois, ça c'est un mec qui s'appelle Ali Abdal sur YouTube qui a un peu défini, enfin qui prône un petit peu cette théorie là, qui est que la qualité provient de la quantité. Et donc au début, faut vraiment y aller, faire à fond du contenu pour trouver un peu ce qui toi te plaît, comme je te le disais avec le pourquoi, et après ce qui plaît aux gens et ce qui plaît à YouTube. C'est vraiment ce triptyque, en fait. Et ce qui m'amène sur le dernier point, comme conseil, la bonne chose pour améliorer son contenu, c'est aussi de regarder les stats, en vrai, les KPI dont je te parlais, que sont le watch time, qui vraiment est... Après, faut pas trop se baser là-dessus non plus, tu vois, c'est une vision très marketing, en fait, des choses. Tu peux vraiment accorder beaucoup d'importance d'estime, en fait, plutôt de ta vidéo et de ta production à ces chiffres. Et c'est pas forcément une bonne chose. Il faut savoir garder, selon moi, le bon équilibre entre l'aspect marketing et l'aspect artistique, si on peut dire ça comme ça. Tu vois, c'est vraiment savoir jongler entre les deux. Et si tu trouves que ta vidéo est bien faite, même si elle a des mauvaises stats, eh ben, c'est bien, tu vois, elle est bien faite. Il faut pas non plus accorder trop d'importance à ça. Mais il faut savoir jongler entre ces deux casquettes-là. Et donc voilà, ça c'est le troisième et dernier point selon moi, c'est savoir réitérer en fonction des résultats que tu as par rapport aux chiffres, pas que, savoir aussi écouter les gens, ce qu'ils en pensent, parce qu'au final, les chiffres c'est une chose, mais derrière c'est des vraies personnes qui regardent ton contenu et c'est bien d'écouter les conseils, tout en restant fidèle à ce que tu veux faire et à ton pourquoi, comme je te le disais au départ. Et voilà, après il faut savoir aussi... se dire que YouTube, c'est de la vidéo, c'est du contenu vidéo, mais pas que, tu vois, t'as aussi cette grosse partie miniature et accroche qui passe par au-delà de ta vidéo, qui est le titre, et vraiment trouver un fond qui est pertinent, plus que la forme que je te disais sur quel mot tu dis, mais plus le concept qu'il y a derrière, le paradoxe, ça c'est très important au final, cette notion de paradoxe. Trouver le paradoxe qui va faire que les gens vont avoir envie de cliquer sur ta vidéo avant même de... Enfin, que les gens vont aimer ta vidéo avant même de l'avoir regardée. Et voilà, c'est le dernier point que je pourrais te donner comme conseil.
Super. Bah écoute, merci beaucoup Léo, c'était très cool. C'est pas impossible que je te sollicite parce que je vais commencer à mettre les enregistrements de SaaS Club sur YouTube. Ouais. Le premier étant celui-là, notre échange. Donc ouais, et puis je te demanderai peut-être des petits conseils pareil sur TikTok ou Short, enfin voilà. En tout cas, merci beaucoup, c'était très sympa de nous partager ton retour. Merci beaucoup.
Merci Eric, c'était très cool.
Ciao, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut.
SaaS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez retenu un ou deux conseils, techniques ou apprentissages, alors pensez à noter SaaS Club 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager. Et si vous êtes de la team Android, pas de problème, partagez simplement un épisode qui vous a fait kiffer sur vos réseaux sociaux. C'est ce qui m'aide à gagner en visibilité et m'encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez collaborer avec un copywriter qui comprend les enjeux métiers et business d'un SaaS, envoyez-moi un message sur LinkedIn, Eric Seclet, S-E-C-L-E-T. Encore merci et à la semaine prochaine.